Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus pour l'une des dernières tables rondes de cette édition 2018 des Utopiales qui s'intitule « Penser le corps féminin en situation de handicap ». Il est vrai que le handicap prend plusieurs formes. Il peut être physique, il peut être sensitif, il peut être mental sous différentes formes et il peut être aussi visible et invisible. Et dans le cadre de cette conférence, l'idée était venue de parler du corps féminin et du handicap parce que le handicap et la femme est quelque chose qui, selon certains, fait extrêmement défaut dans la représentation, qu'elle soit en science-fiction ou qu'elle soit dans d'autres types de littérature ou de médias. Et autour de moi, j'ai trois invités de marque qui vont essayer de discuter autour de ce sujet. Tout d'abord, à l'extrémité, juste en face de moi, Jana Debat, qui est autrice de science-fiction. Excuse-moi, Jeanne, je pense que c'est le stress. Autrice de science-fiction qui s'intéresse, dont un des derniers ouvrages, Claude, la saga de l'héritière, si je ne me trompe pas, qui est également la directrice artistique des Utopiales, à qui on doit toute la programmation de ces tables rondes, entre autres choses. À côté d'elle, nous avons Antonio Casilli, qui est enseignant-chercheur à Paris Tech. Aussi chercheur associé au centre Edgar Morin de HESS et qui s'intéresse entre autres choses au corps et à la relation que celui-ci a avec le numérique ou peut avoir avec le numérique sur entre autres choses le handicap mais aussi la forme d'automatisation et d'autonomie qu'on peut en dégager. Enfin, nous avons Baptiste Beaulieu qui est auteur à la fois de chroniques de vie de notre vie, celle de médecin généraliste et ancien médecin urgentiste, et qui a publié Mille et une vies aux urgences, ainsi que des chroniques qu'il continue à compiler sur son blog qui s'appelle Alors voilà, qui essaye de réconcilier les médecins et les patients. Alors pour moi, ma première question, quel est le rapport entre la femme et le handicap pour vous? Est-ce que c'est dans la représentation sociétale, dans la représentation littéraire, par exemple pour toi, Jeanne? On va commencer par toi. Pourquoi l'intérêt de cette table ronde pour toi et pourquoi cela te paraît important?
Alors déjà parce que je souffre personnellement d'un handicap invisible, qui est la fibromyalgie, et qui est une maladie qui, grosso modo, transforme l'univers en douleur, on va dire. Alors elle est plus ou moins forte, elle est plus ou moins présente. L'esprit s'occupe et elle disparaît, puis elle revient, et puis elle peut vous mettre plus bas que terre, celle-là. Du coup, l'invisibilité de mon handicap m'invisibilise doublement, en tant que femme handicapée, si vous voulez. C'est vrai que quand vous me voyez courir dans la Cité des Congrès, vous ne pensez pas automatiquement que peut-être il va falloir me laisser votre place si je tombe. Assise dans le métro, hein, vous voyez, parce que j'ai quand même l'air d'une femme dans la force de l'âge, et voilà. Le fait est que c'est comme ça, parfois, je n'ai plus aucune force pour rien, et surtout pas mentale. Dans la littérature, je n'ai rencontré aucun modèle réel, aucune représentation qui me permettait de définir le handicap de façon fictionnelle. Des héros handicapés, on en a pas mal dans la science-fiction, d'une façon ou d'une autre. Ne serait-ce que le professeur Xavier, pour commencer, celui-là, on le voit bien. Ou des handicaps invisibles aussi. Alors, je pense à Ender, de la stratégie Ender, qui est clairement dans la sphère Asperger. J'affirme, parce que j'en ai discuté avec Orson Scott Card et qui l'a confirmé. Pour moi, notamment plus, son alter ego, Bean, alors là, on est dans un degré d'autisme encore supérieur. Voilà. J'ai eu, en tant que directrice artistique de ce festival, envie de parler avec tout le monde et avec des spécialistes de comment est-ce qu'on pourrait penser les femmes handicapées, à la fois fictionnellement et réellement.
Et moi, d'enchaîner en proposant une vision différente qui est, si l'on veut, plus abstraite parce qu'elle est ancrée plutôt dans mon activité de recherche. Donc les thématiques m'intéressent, autant la thématique du corps féminin que la thématique du corps en situation de handicap m'intéressent parce que c'est des thématiques que j'ai abordées dans mes enquêtes. Par exemple, dans mes enquêtes sur les usages en ligne, sur comment les gens construisent des communautés en ligne, pourquoi et orienter vers quoi. Et bien là, on se heurte très vite, malgré évidemment une certaine rhétorique qui est encore malheureusement très présente, selon laquelle les usages numériques nous mettent dans une situation d'abandon du corps, d'adieu au corps. Et là, on se trouve au contraire face à des personnes qui, à chaque fois, se présentent sur Internet, et j'insiste sur le fait qu'ils se présentent sur Internet, ils sont là en créant un effet de présence, mais à chaque fois, elles y viennent avec des défis spécifiques. Et ces défis, parfois, justement, résonnent avec leurs conditions féminines. Donc, c'est des défis, justement, à l'inclusion sociale, à l'acceptation sociale, qui sont spécifiques au fait d'être femme, et dans certains cas, des femmes en situation de handicap. Et donc, là, il y a évidemment des enjeux de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire différentes dimensions d'une même personne qui deviennent importantes dans l'interaction sociale. Et on doit s'inventer des manières d'être ensemble avec les autres, on doit s'inventer des manières pour se présenter aux autres, justement pour faire en sorte que, par exemple, le handicap ne soit pas la première chose qu'on remarque, surtout dans les cas de handicap visible. Dans le cas d'un handicap visible, effectivement, une personne qui, par exemple, n'a pas un accès à Internet a souvent des situations dans lesquelles elle subit le regard des autres. Parce que le handicap, quand il est visible, est la première chose qu'on voit et la première chose qu'on colle en tant que marqueur de l'identité d'une personne. Alors que, par exemple, en créant des médiations numériques, par exemple à travers la parole, à travers le chat, plutôt qu'à travers la visibilité, à travers que sais-je, une vidéo, ou en créant des avatars ou des représentations de soi qui peuvent être textuelles, visuelles, graphiques, etc. Et là, on arrive effectivement à se présenter d'une manière différente et à gérer le handicap ou à gérer les modalités d'accès dans une situation sociale. Alors, ça, c'est des situations que j'ai explorées, autant en travaillant justement sur la question du handicap en ligne, autant en travaillant sur des questions qui n'étaient pas vraiment spécifiquement liées à des personnes qui se définissaient elles-mêmes en tant qu'handicapées, mais par exemple, avec mes collègues et d'autres chercheurs, pendant des années, j'ai travaillé sur les personnes, sur les femmes surtout, atteintes de troubles alimentaires. Alors, évidemment, ce n'est pas un handicap, et ces personnes-là ne revendiquent pas ça en tant que handicap, mais il y a une situation certainement handicapante. Handicapante, c'est-à-dire que ces personnes-là, donc les personnes anorexiques, boulimiques, atteintes de troubles mixtes, par exemple, subissent, par exemple, des formes de stigmatisation, des formes d'exclusion, qui sont du moins assimilables à certaines. Donc voilà, à certaines formes qui subissent les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça c'est des sujets que j'ai explorés, des personnes que j'ai interviewées, des personnes que j'ai observées en ligne, et donc des personnes sur lesquelles et avec lesquelles on a construit un bout de chemin ensemble. Voilà.
Et toi, Baptiste, du point de vue du médecin?
Moi, mon point de vue de médecin généraliste sur le handicap, c'est qu'on n'est absolument pas formé au cours de nos études gérer cette communauté-là. Alors, le handicap féminin, encore moins, comme le disait Antonio, puisque le handicap féminin, du coup, est intersectionnellement lié à deux types d'oppression. Ben, d'abord, le sexisme. De par le genre de la personne, et puis le validisme par rapport au handicap. Et nous, nos études de médecine sont ainsi faites que je ne sais pas si c'est un moyen de protection, un moyen de mettre à distance les émotions qui pourraient nous traverser en tant qu'être humain, mais c'est que tout au long de nos études, on va avoir tendance, et peut-être entre nous aussi, on va accentuer cette tendance-là, à réduire le patient ou la patiente, ici la patiente, à sa pathologie. Par exemple, on va dire la dysthyroïdienne de la chambre 120. Et heureusement qu'il y a eu les réseaux pour me mettre du plomb dans la tête, parce que je recrachais ce que j'avais appris. Et la première fois que j'ai rencontré une copine dont la fille est porteuse de trisomie 21 et que je parlais de sa fille trisomique, elle m'a dit non, elle s'appelle Louise et Louise est porteuse de trisomie. Elle n'est pas trisomique. De la même manière qu'on ne peut pas dire la dysthyroïdienne, parce que la dysthyroïdienne en question, elle a un prénom, elle est mariée, elle a une vie, on ne peut pas la réduire à sa pathologie. Et ça, très souvent dans le milieu médical, on le fait pour tout le monde, mais on le fait particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est très important, je pense, d'intervenir parfois dans les facultés de médecine et de dire deux choses. Premièrement, ne réduisez pas vos patients et vos patientes à leur pathologie. Et deuxièmement, n'oubliez pas que tous et toutes ici dans cet amphi de médecine, si vous êtes ici, c'est que vous jouissez de privilèges. Ça, c'est statistique, c'est sociologiquement, on le sait, les études de médecine sont parmi les plus clivantes sociologiquement. C'est-à-dire que c'est les plus à même de reproduire des situations de reproduction sociale où nos parents ont des privilèges, on a des privilèges. C'est-à-dire, moi, en tant que médecin, j'ai 7 ans d'espérance de vie en plus que la plupart de mes patients et de mes patientes. Et c'est le cas de tous mes camarades médecins. Donc c'est bien aussi parfois de le dire, vous savez, quand vous gérez une patiente en situation de handicap qui vit avec le RSA, vous ne connaissez absolument rien de sa vie, rien du tout. Juste dire ça, dire ne pas juger, vous ne savez pas tout ce qu'elle affronte et tout ce que vous seriez probablement incapable d'affronter.
Est-ce que justement, en tant que femme handicapée, il y a certains types, puisqu'on réduit à la pathologie même, on oublie certains types de soins. Je pense par exemple aux soins gynécologiques. Il y avait une superbe, pour petite info, l'APF avait sorti des témoignages de femmes il y a à peu près, je crois, deux ou trois mois, où des témoignages de femmes qui disaient mon médecin traitant oublie de me dire qu'il faut absolument que je me fasse faire un frottis. On oublie un certain pan de un pan social et on est vraiment objectivé juste à quelque chose de factuel qui nous exclut par pression sociale.
C'est vrai que quand on tombe sur des imbéciles, ce qui arrive relativement souvent, mais pas toujours, not all to bibs, on peut très facilement n'être vu qu'à travers sa pathologie, n'être soigné que pour ça. On arrive avec sa bronchite, on repart avec le médoc pour la crise qui va venir derrière. Alors bon, il n'y a pas grand-chose à faire pour une bronchite à part aller au lit et prendre de l'aspirine. Enfin, pas de l'aspirine, mais un antipyrétique quelconque. Mais on est d'accord. Mais voilà. Mais ça, c'est valide aussi pour les personnes en situation de surpoids. J'ai vu passer, et surtout aux femmes d'ailleurs, hein, parce que l'injonction de maigrir, elle est quand même bien balancée dans la tronche des femmes avec une force absolument hallucinante. J'ai vu passer un petit strip il n'y a pas longtemps. C'est une femme en surpoids qui arrive chez le médecin, elle a perdu son bras. Et la première chose qu'il lui propose, c'est un régime. Voilà. Et c'est totalement ça. C'est totalement ça à quoi on a affaire. Y a aussi les questions de confiance. Je ne sais pas ce qu'elle a... Les patients mentent, et les patientes, elles mentent deux fois plus parce que ce sont des femmes. Donc, si je dis à mon médecin « Non, je n'ai pas eu de rapport sexuel dans le mois », ce qui peut être important pour la prise de certains médicaments qu'il ne faut pas prendre, qu'il faut prendre, mais il ne faut pas être enceinte après, hein, vous voyez, parce qu'il va y avoir de la tératologie derrière, on ne vous croit pas. De base, la sécurité sociale impose, par exemple, pour l'hépatite C, aux femmes qui sont soignées par l'interféron à la ribavirine, elle impose la prise de pilule. Vous pouvez très bien décider de faire autrement. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous coller de la chimie dans le corps sous prétexte. Eh bien non, on ne vous prescrira pas cet ensemble de médicaments si vous ne prenez pas la pilule. C'est quand même hallucinant. Il y a d'autres façons de ne pas avoir d'enfant, à ma connaissance, à commencer par ne pas baiser.
Baptiste.
Là, ce que tu pointes du doigt, c'est très juste, c'est le problème du paternalisme médical. C'est-à-dire qu'on n'est pas les papas et les mamans de nos patientes et de nos patients. Et le problème, c'est qu'on passe 10 ans à nous faire croire que ce sera le cas plus tard. Alors qu'en fait, ce qu'on doit aux patientes, c'est juste un devoir d'information à la base. C'est-à-dire, voilà ce qui se passera si vous prenez tel médicament et, qui se passe, et que vous faites ça ensuite. Mais c'est tout. On n'a pas à décider pour les gens. Mais ça, ça veut dire faire un gros nettoyage de tout ce qui est fait en médecine depuis 40 ans. Quoi.
Mais là, c'est carrément dans le protocole de la Sécu. Tu vois, tu n'as pas la convention, tu n'as pas le remboursement de ces médicaments qui coûtent extrêmement cher. Si tu ne jures pas par contrat et sur, en signant avec ton sang que tu vas prendre ta pilule tous les jours. C'est même pas le toubib qui est paternaliste, là, c'est la société. Et elle va rajouter une couche de paternalisme sur la femme qui en a déjà bien assez, il faut quand même le dire.
En effet, là, vous semblez indiquer que, et ça c'est quelque chose qu'effectivement on a dénoncé à plusieurs reprises, que dans la profession médicale, si on se concentre sur ce domaine-là, il y a une double polarité. D'une part, effectivement, quelque chose qu'on a hérité des siècles passés, que d'autres ont défini comme le biopouvoir, donc le fait qu'un médecin est aussi porteur d'un pouvoir normatif sur le corps des femmes, d'autant plus, sur le corps des personnes en situation de handicap, d'autant plus. On peut le définir comme un pouvoir paternaliste. Michel Foucault l'aurait défini comme un pouvoir pastoral, donc presque voilà, de berger, ou de berger des âmes et des corps, pourquoi pas. Mais ça, ce n'est qu'une polarité. Et que cette polarité est loin d'avoir gagné à ce stade-là, même si, encore une fois, on en a des manifestations chaque jour. Et depuis longtemps, dans un pays comme la France, on cherche à imposer une autre vision, une autre piste, qui est basée justement sur ce que vous disiez à propos d'un devoir d'information. Et ça sera dit à quoi ? À ce qu'on appelle la démocratie médicale. Il y a des lois, des dispositifs de loi qui ont été, à partir de 2002, proposés et acceptés et passés en France et qui sont actuellement en application et qui consistent vraiment à dire bon, le devoir du médecin est un devoir de capacitation de ses patients, d'autant plus des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, je te fournis en tant que patient de l'information où je te mets à disposition des pistes thérapeutiques s'il s'agit de thérapie ou des pistes d'accompagnement s'il s'agit d'accompagner par exemple une condition critique chronique pardon et dans ce contexte là toi tu es dans une situation d'autonomie alors la question revient à dire à mon sens que bien sûr, on oscille entre ces deux polarités, donc le pouvoir, le biopouvoir et la capacitation. Mais je me demande aussi dans quelle mesure la capacitation, la deuxième polarité, donc, est inégalement distribuée. Et finalement, qu'il y a aussi des problèmes qui sont liés ou des enjeux qui sont liés, par exemple, à l'origine sociale, qui sont liés à des formes de stratification, à des formes d'inégalité qui, pour ajouter encore plus de complexité à cette histoire d'intersectionnalité, ne sont pas seulement une question de genre, ne sont pas seulement une question d'être habile ou pas, mais, ou valide, on dirait en français, pardon, mais aussi des questions d'avoir, par exemple, accès à, par exemple, à des thérapies qui sont extrêmement chères. Et donc, là, de ce point de vue-là, on a d'autres enjeux encore qui s'ajoutent à ce qu'on vient de lister déjà.
Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi social de perception du corps féminin en situation de handicap ? Je pense par exemple qu'au fait que des pressions par exemple, qu'on peut subir quand on est une personne handicapée, sociale, j'entends purement sociale, sur nos capacités à réfléchir, à être par exemple, à mener une vie correcte, normale, d'un point de vue sociétal.
Ce qui est sûr, c'est qu'on demande aux patients et aux parents de patients une sainteté et une gestion de leur vie personnelle largement plus, entre guillemets, morale qu'au reste de la population. Déjà, une handicapée, elle doit être gentille, elle doit être polie, elle doit être accommodante, elle doit pas rouler sur les pieds des gens. Et là, je cite une amie en fauteuil roulant. Elle ne doit pas sortir de la vie, de la perception que les gens ont de sa vie. La même amie en fauteuil roulant est professeure, elle enseigne, ce qui signifie qu'elle a dû développer des trésors d'énergie pour réussir à mener sa scolarité jusque dans les sphères de l'agrégation quand même. Ça signifie aussi que ses parents ont dû s'y tuer à la tâche pour le faire admettre aux institutions de l'éducation nationale. Et là, elle enseigne depuis plusieurs années. Et elle me raconte des histoires de salle des profs qui me font dresser les cheveux sur la tête. Parce que c'est du genre, quand une collègue découvre qu'elle est mariée. Ah, t'es mariée. Ah, et ton mari a quel handicap ? Surprise, le mec est absolument, totalement valide, à part les petites névroses habituelles de n'importe quel mâle blanc français. Et là, elle a lu dans les yeux de sa collègue à quel point, justement, les dites névroses devaient être absolument abominables pour... voilà. Et c'est tout le temps des histoires comme ça. Un bus va moins s'arrêter devant une femme en fauteuil roulant que devant un homme avec une canne. Ça, c'est quasiment statistique. Donc, c'est juste abominable. Dans la science-fiction, on arrive à éluder le problème parce que c'est merveilleux, sauf dans Star Wars, où, comme le disait c'est justement Catherine Dufour, on arrive à faire repousser les bras, mais on n'a pas inventé la péridurale. C'est quand même... elle meurt en couche, hein, Amidala. C'est quand même, c'est hallucinant. On est dans un empire galactique et on réussit pas à sauver une femme en couche. Hein? Juste avant, Dark Vador, le futur Dark Vador, s'est mangé un volcan sur la gueule et il va vivre 100 ans derrière. Faut quand même pas déconner. Là, où est-ce que c'est crédible? Dites-moi. À quel endroit c'est crédible? À quel moment on a décidé que les femmes, de toute façon, elles pouvaient mourir en couche alors qu'à côté, on sauvait des types qui tombaient d'un avion? Putain, on est bâti, a priori, quelque part, on est bâti pour faire des gamins. C'est pas un accident qui nous tombe sur la gueule. En général, on l'a voulu, en plus. C'est la lue. Juste. Alors, je m'énerve un peu. Excusez-moi.
Ce que tu dis, pardon, tu voulais.
Non, vas-y.
Ce que tu dis sur le corps féminin, quand on analyse le corps féminin, moi je suis un grand fan de comics. Quand on analyse le corps féminin dans les comics, alors déjà, les nanas se battent toujours en mini short avec des Wonder Bra, je sais pas comment on dit, ouais, voilà. Enfin, qui se bat comme ça dans la vraie vie, quoi. Vous prenez les mêmes habits, vous les mettez sur des super-héros masculins, ils ont l'air totalement ridicule, quoi.
Non, mais je te rassure, elles ont l'air ridicules aussi.
Oui, mais quand on est un garçon, on le voit pas comme ça. Oui, voilà. C'est plutôt, d'ailleurs, ils se disent comique, c'est pour les garçons, on va mettre des personnages hyper sexy, voilà, hyper sexualisés aussi. Et elles sont toujours créées en contraste, en regard de leur pendant masculin. Et elles sont créées par des hommes. C'est-à-dire Wonder Woman, par exemple, tient la dragée haute à Superman. Elle lui latte la gueule de temps en temps, même. Mais elle a des attributs traditionnellement attribués au masculin. C'est-à-dire l'hypervirilité, les épaules, voilà, elle y va. Mais elle a aussi été créée par un homme. C'est-à-dire qu'à la base, peut-être les fans de comics ici le savent, mais le créateur de Wonder Woman était un fan de bondage. C'est-à-dire qu'il adorait attacher les gens, ses conquêtes féminines. Et Wonder Woman passe tout son temps avec son lasso à attacher des mecs. qu'est-ce qu'elle aurait été si elle avait été créée par une femme?
Je m'étais toujours demandé d'où sortait cette histoire de lasso, parce que c'est pas vachement grec. C'est pas très grec comme arme, le lasso.
C'est la même personne qui a inventé donc la machine à détecter, le lie detector, donc le détecteur de mensonges. Et c'est un lasso justement qui oblige les personnes à dire la vérité.
Oui.
Non, mais par contre, si je peux ajouter, il y a quelque chose de fascinant justement dans les femmes, dans les comics, parce que le pouvoir même devient leur propre handicap. Donc Invisible Girl des Quatre Fantastiques, d'abord évidemment on la met dans une situation de minorité en termes d'âge parce qu'on la définit en tant que girl alors que son mec est décrit comme une personne mûre, donc au temple blanc, mais son pouvoir est le pouvoir d'être invisible, donc le pouvoir qu'on regarde à travers elle.
C'est un pouvoir partagé par toutes ici. Hein.
Voilà.
Et surtout par les lesbiennes à propos de la PMA sur les plateaux de télé de BFM.
Voilà.
Télé.
Et il y a quand même il y a cette question de base de quel est le type de pouvoir que le regard masculin, donc le male gaze, on l'appelle, donc le regard des hommes, a sur le corps féminin. Je repense justement aux enquêtes qu'on a menées avec mes collègues sur les personnes atteintes de troubles alimentaires sur Internet. Et là, on a énormément de problèmes, évidemment, à donner de la parole à des personnes qui, très souvent, alors presque toujours, c'est des femmes, mais quand même on a un 10% de personnes qui s'identifient comme garçons et qui sont atteintes de troubles alimentaires. Et évidemment, il y a énormément de projections imaginaires. Donc évidemment, l'idée qu'on se fait d'un corps féminin qui est fin, mais attention, il ne doit pas dépasser ce corps à un certain seuil. Parce que sinon, évidemment, il rentre dans la tératologie, il rentre dans ce qui est perçu comme monstrueux. Donc, il faut faire des régimes, mais il ne faut pas devenir anorexique. De l'autre côté, évidemment, si on est anorexique, et là, on revient toujours à la question de comment le handicap est aussi, en plus, associé avec une injonction de ressenti ou de comportement hyper civilisé vis-à-vis des autres. Il ne faut pas se montrer grognon, il ne faut pas se montrer antipathique. Il ne faut pas, en l'occurrence, si on revient au corps féminin anorexique ou boulimique, il ne faut pas que l'anorexique ou le boulimique exprime sa détresse sur Internet. Parce qu'au moment où elle exprime sa détresse sur Internet, on lui dit tu es en train de faire l'apologie de ton trouble alimentaire, tu es en train d'inviter les autres à suivre. Non, c'est le trouble qui s'exprime. Et le trouble qui s'exprime, parfois, si je suis atteint d'une maladie qui est type un cancer, je décris ma condition de personne atteinte d'un cancer. Si je suis atteint d'une anorexie, je parle comme une anorexique et donc je dis mon ressenti. Et mon ressenti est je veux être parfaite, je veux peser 40 kilos, je veux avoir un corps filiforme. Est-ce une manière d'inviter les autres à suivre mon exemple, ou alors est plutôt, et ça c'est justement l'enjeu qui est derrière ce qu'on appelle le phénomène pro-ana, hein, donc les gens qui sont accusés constamment de faire de l'apologie de l'anorexie, ou est-ce plutôt une manière de décrire mon ressenti? C'est quelque chose qui devient extrêmement complexe, justement, même quand on se trouve dans des situations qui ne sont pas des situations qu'on peut identifier comme du handicap au sens légal même du terme.
D'ailleurs, les personnes qui souffrent d'handicap non visible, l'anorexie peut en faire partie, puisqu'on porte des vêtements, c'est pas forcément visible. Les femmes souffrant de maladies invisibles ont-elles une double peine, justement, parce qu'on ne les croit pas. Enfin, généralement, on ne les croit pas. Je pense par exemple à l'endométriose ou d'autres maladies. Je pense aussi à ta fibromyalgie, Jeanne, par exemple. Est-ce que on souffre pas d'une double peine en disant que c'est rien, qu'on t'amoindrit, on te paternalise?
Alors, dans mon cas, c'est... Comment dire? J'ai pas beaucoup souffert de ça, en fait, personnellement. J'ai pas beaucoup souffert de ça parce que le premier qui m'emmerde s'en prend une. Quelque part... J'avais d'autres discriminations à combattre que celle-là, et notamment celle qui frappe mon fils Kayan, qui est autiste. Donc je ne me suis pas trop occupée de la mienne, je me la suis invisibilisée toute seule. Mais je pense à une autrice de fantasy que je ne nommerai pas, parce qu'elle n'a pas forcément envie qu'on la nomme, bien qu'elle se soit souvent outée sur le sujet. Sa vie de fibromyalgique... par rapport à tous les festivals, la charge nerveuse qu'impliquent les relations sociales qui sont, alors ne le prenez pas mal, qui sont particulièrement rudes pour un fibromyalgique, parce que à un moment, notre peau ressent votre présence. C'est une espèce de super pouvoir à l'envers, très très pénible, qui fait que, en fait, on souffre que vous soyez là. C'est pas le cas pour l'instant, rassurez-vous, tout va bien. Mes médocs fonctionnent vachement bien, je pète le feu. Enfin, disons que je suis fatiguée, mais je pète le feu, quoi. Mais il y a un moment où cette autrice craquait et se faisait dire gentiment que quand même elle en remettait un peu une louche et que si elle passait moins de son temps à observer son nombril, ça irait beaucoup mieux. ce qui évidemment l'a précipité encore plus dans une crise encore plus profonde. Et merci les gars, il n'y a plus qu'à prendre une pelle et creuser quoi.
Ce que tu dis là sur le handicap invisible et la double peine, ce que tu dis Antoine, et je rebondis sur ce que tu dis Jeanne, c'est aussi le problème de ce qu'on appelle la psychophobie, c'est-à-dire en France, l'état de la psychiatrie actuelle en France est déplorable, et notamment les patients en situation de handicap ou de maladie mentale souffrent énormément parce qu'ils doivent en permanence prouver qu'ils sont malades. C'est-à-dire que on ne dira jamais à quelqu'un qui a du psoriasis, frotte fort, ça va partir. Quoi. Et pourtant, personnes dépressives, on va leur dire, mais tu as essayé de te bouger ?
C'est du yoga, de la méditation. Voilà.
Et, sauf que on peut prouver, par exemple, un problème rhumatologique, on va faire une IRM et on va prouver qu'il y a des lésions, on les voit, le radiologue le note sur le compte-rendu. Une personne qui a une dépression... elle sera obligée tout le temps de prouver qu'elle est en situation de dépression, alors que les études montrent maintenant que c'est vraiment un problème de sérotonine, qu'il y a d'autres facteurs, probablement des facteurs inflammatoires, qu'on s'approche de plus en plus vers une origine organique. Mais c'est pareil pour les personnes en situation de handicap invisible. Il faut tout le temps prouver. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous remet dans la tronche ce que vous connaissez déjà. Notamment, je pense à une patiente un jour, j'étais en remplacement. Elle arrive un matin et elle me dit « Voilà, je viens pour renouveler mon mois d'arrêt maladie. » Moi, je la connaissais ni d'Ave ni d'Adam. Elle avait l'air valide. Je lui demande « Mais pourquoi il vous faut un mois ?» Elle fait « Non, mais ça fait 6 mois que je suis arrêté. Mon médecin habituel le fait toujours. » Je dis « Mais moi, je ne peux pas vous faire un mois sans savoir pourquoi vous êtes en arrêt. » Et finalement, on s'est engueulé. Je ne sais plus pourquoi. Enfin, c'est parti dans les tours très, très vite. Et je l'ai rappelé dans l'après-midi pour essayer de... Moi, j'avais perdu ma grand-mère le matin, donc je n'étais pas bien non plus. Voilà. Et elle me dit, mais à chaque fois, il faut que je réexplique que je suis malade. Et probablement que si elle était venue au cabinet médical en fauteuil roulant, je ne lui aurais pas demandé comme ça de s'expliquer, de me montrer. Voilà. Et c'est la double peine, parce qu'elle me dit, à chaque fois, les remplaçants me remettent ma maladie dans la tronche. Quoi.
Encore que tu sais que la Sécurité sociale, la maison du handicap, il faut, quel que soit le handicap qu'on ait, qu'on refasse le dossier tous les 4 ou 5 ans. Comme si, quand t'es... excuse-moi, je te laisse la parole en 3 secondes. mon fils, il ne va pas guérir de son autisme. Hein. Et ça fait 19 ans qu'on me demande de redire qu'il est toujours bien autiste à 80%. Oui, merci, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, je ne vais pas guérir de ma fibromyalgie non plus. Ça n'existe pas. Enfin, à ma connaissance, on n'a jamais eu de rémission sur cette maladie.
Non, je suis en train de refaire mon deuxième DPH, donc c'est pour ça.
Oui, moi aussi.
Je peux confirmer. En plus, il y a un truc très sympa quand on est une personne handicapée. Bon, je prends la parole en tant que personne handicapée, pas en tant que femme. Je suis désolé. C'est qu'on vous demande en plus un projet de vie. C'est le truc sympa. C'est vous dire que sur 5 ans, on doit se projeter et on doit justifier de pourquoi, par exemple, on ne travaille pas. Pourquoi on est en fauteuil ? Moi, je suis en fauteuil depuis que j'ai à peu près moins de 2 mois de mon accouchement. C'est-à-dire que le projet de vie, autant pour dire que j'ai noté la croix, je n'en rédigerai pas. Et je me suis fait convoquer, la seule fois où je me suis fait convoquer par le médecin de l'ANMPH, je devais avoir, c'était il y a 5 ans, donc j'avais 27 ans. Et je suis arrivé, je lui ai fait, mais pourquoi vous me convoquez ? Et en fait, j'ai passé 30 minutes à devoir justifier ce que j'étais, alors que je fais partie des syndromes qui sont classifiés par la Sécu. Quand je fais une ACD, on a juste à signer un papier et je fais partie de la classification Sécu la plus basique qui soit.
Tu sais que le truc rigolo, c'est qu'à moi, on me demande pourquoi je continue à travailler.
Oui, non, moi... moi, je vais vous donner un truc très bête, très méchant. Moi, on m'a demandé pourquoi je demandais une certaine mention sur ma carte d'invalidité. Oui, on me voit dans les vides tous les jours assez mobile, mais il y a des jours où je ne suis pas capable de quitter mon lit, où j'ai trop mal au dos, où mes jambes refusent, mes muscles refusent ne serait-ce que de bouger le petit doigt. Et on m'a pris vraiment pour un con. C'est-à-dire qu'on me convoque à 9h30 dans un bureau et on me demande, est-ce que vous pouvez... Enfin, je dis que je marche un peu, on me demande de lever et de le prouver. Et moi, je suis là, je me suis levé, j'ai tremblé, je me suis rassis. Et j'ai dû expliquer pourquoi, sur certains déplacements, quand je vais dans des villes, là, par exemple, aux Utopiaques, je suis obligé d'être accompagné. Parce que j'ai besoin qu'on porte ma valise, qu'on m'emmène dans le train. Ou, par exemple, quand je vais faire mes courses, si j'ai envie d'acheter deux packs d'eau, juste deux packs d'eau, j'ai pas que mermi, je vais me trimballer mes deux packs d'eau dans le bus. Je crois que c'est pas. Enfin, et encore, quand moi ça va, j'articule, je vocalise, j'ai pas de problème. Mais imaginez quelqu'un de plus handicapé que moi, c'est assez drôle.
Il y a un truc pour les femmes en plus, c'est que la suspicion de mensonge est double. La suspicion d'en remettre sur la douleur, elle est toujours double. J'étais pas en situation de handicap là. J'avais accouché et ma péridurale avait cessé de faire effet. C'était très sympa. C'était un moment. Oui. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez si, sur une fibromyalgique ce que ça peut donner ça. Donc, j'appelle l'infirmière qui refuse de me donner des calmants. Une première fois. Au bout d'une heure, je la rappelle parce que j'ai envie de mourir, juste là, qu'on m'assomme, qu'on n'en parle plus. Et inutile de vous dire qu'à ce moment-là, voir mon enfant n'était pas ma priorité. Hein. C'est, j'étais même pas capable de le tenir. Donc, je la rappelle et elle finit par me dire « Oui, mais vous comprenez, vous n'avez rien mangé depuis 24 heures, alors on a peur que ça vous fasse mal à l'estomac. Mais connasse !» Je veux bien avoir mal à l'estomac, là. Là, j'ai tellement mal au cul que je veux mourir. C'est juste ça. J'étais obligée de la menacer d'un avocat pour les obtenir. Mes cachets. Mais parce que fondamentalement, dans son œil, il y avait que... J'en remettais.
Là, ce que tu dis, ça me fait penser récemment, tu sais, à ce qui s'est passé avec la mort de Naomi Musenga.
Exactement.
La jeune femme du SAMU qui n'a pas été crue, enfin, la jeune femme du SAMU, la jeune femme qui n'a pas été crue par le SAMU, justement, et qui est décédée d'une hépatite au paracétamol. Et là, tu parlais du coup de ton accouchement, mais... Je voudrais qu'on parle quand même, parce que c'est important, de l'enjeu qu'on retrouve spécifiquement dans le corps féminin en situation de handicap, qui est celui de la fertilité. Et je voudrais vous raconter juste une petite anecdote comme ça. Donc moi, j'étais étudiant en médecine, j'étais jeune étudiant, et un jour, on reçoit à l'hôpital, donc j'étais dans un hôpital périphérique, on reçoit une jeune patiente en situation de trisomie, porteuse de trisomie 21, et qui venait pour une appendicite. Et son cas, c'est un peu compliqué. Elle a dû être emmenée en hélico au CHU le plus proche où elle a été opérée. Et quand elle revient, le soir, on mange tous ensemble, on parle de cette patiente. Et je vois atterrer les autres internes qui disent oui, c'est bon, elle a été opérée de son appendicectomie. Elle a eu une appendicectomie. Ils ont aussi réglé l'autre problème. Je fais, c'est quoi l'autre problème? C'était en 2010 à peu près, ouais. Oui, mais tu la vois venir, mais il lui avait ligaturé les trompes, le chirurgien.
Quoi ? Ah non, je ne la voyais pas venir. Ah, ah putain les...
Voilà. Et donc, il y a cet enjeu de fertilité aussi. Et j'avais été absolument stupéfait de voir, évidemment, certains d'entre nous étaient révoltés, mais de voir le nombre de ceux qui trouvaient ça absolument normal et qui s'imaginaient que c'était pour le bien aussi de la patiente, parce qu'après tout, elle n'aurait pas pu gérer une grossesse, et qui avait cette idée-là, qui est une idée très eugénique, qu'elle risquait de transmettre son handicap à ses enfants.
Ouf. Ouais.
Désolé, j'ai refroidi l'ambiance un peu. Là.
On n'était déjà pas très chaud, je crois. C'est bon.
Moi, j'avais une dernière question avant de passer la parole au public. Pour vous, pourquoi on représente si peu le corps féminin en situation de handicap dans SF et dans d'autres médias?
Alors, j'aurais une première réponse qui est parce que c'est pas bandant. A priori, pour le boutonneux enfermé dans son placard qui est imaginé le client habituel des comics, ce qui n'est pas vrai. Et ce qui n'est pas vrai non plus, c'est que c'est pas bandant. C'est-à-dire que on en parlait avec Baptiste tout à l'heure. Les femmes handicapées sont parmi les femmes les plus abusées. Hein, Tu avais des choses à dire là-dessus.
Ouais, vas-y. Enfin,
non, c'est bon.
En France, les femmes en situation de handicap, sont 35% d'entre elles ont déjà été agressées sexuellement. Et en cas de handicap mental, c'est 91%. Voilà. Ça dit quelque chose. Enfin, c'est 80% en cas de handicap mental, c'est 91% en cas d'autisme. Tout simplement parce que c'est des proies faciles pour les prédateurs. Et c'est ce que je disais à Jeanne, les femmes en situation de handicap qui se font harceler dans la rue et qui répondent et qui lui disent au mec de dégager, se prennent souvent dans la gueule, bah, tu devrais être contente que je m'intéresse à toi. Et ça, c'est un sujet qui est totalement tabou en France, parce qu'on parle beaucoup du harcèlement, il y a eu MeToo, il y a eu Balance ton porc, mais la quantité statistique de femmes qui sont abusées parce qu'elles sont en situation de handicap et qu'elles constituent des proies faciles, c'est absolument terrifiant, terrifiant.
Et pourtant, c'est seulement pour rebondir sur cette question de pourquoi il y a cette sous-représentation du corps handicapé dans les SF ou dans les comics, etc. En effet, je constate que c'est vraiment une situation paradoxale. Parce que si vraiment on était dans une logique de soumission ou une logique de domination, tu viens de démontrer avec cet exemple-là, paradoxalement, on devrait avoir une sur-représentation. Si vraiment le corps féminin, par exemple, dans ce type de production culturelle, était exclusivement relégué à une situation de corps dominé. Mais c'est plus complexe que ça. À la limite, c'est même la question paradoxale du type de fantasme que certains créateurs, les plus traditionnalistes, les plus traditionnels, dans la SF ou dans les comics, par exemple, se font de leur propre public. Justement parce qu'on a le stéréotype du boutonneux enfermé dans son placard, de l'ikikomori, du no life, etc., qu'on continue à proposer quelque chose qu'on croit adapté à ce type de public-là. Alors que, heureusement, ce public a évolué. Et il y a une énorme variété de personnes qui consomment ce type de production culturelle.
Justement, là, du coup, je me suis mise à penser à Crash de Cronenberg, où là... les personnages fantasment sur des corps accidentés et ils se trouvent et réparés ensuite. Et ensuite, ils refantasment sur l'accident. Donc là, on a des personnes, hommes comme femmes, en situation de handicap, avec des membres, des prothèses, des cicatrices, des handicaps mentaux aussi, qui ont des relations sexuelles dans ce cadre-là, dans cette fantasmatique-là. Mais à ma connaissance, là, et pourtant, grande fan de SF, là, je ne vois pas d'autres cas que Cronenberg. C'est possible que je me trompe.
Et c'est pourtant un cas très spécifique, parce que Cronenberg est plus associé à un certain type de fétichisme, ou de au pluriel, fétiche cronenbergien. Par contre, il y a en effet toute une production qui... d'un certain point de vue, a pénétré beaucoup plus le monde de l'art que le monde de la consommation culturelle grand public, qui est la réflexion sur le corps cyborg et le corps cyborg féminin. Et donc, autant des artistes qui héritent, par exemple, la grande tradition qui commence avec Frida Kahlo, donc le corps handicapé comme un corps qui est articulé avec des machineries ou avec des éléments artificiels, des gens qui recycle dans la réflexion artistique, dans le body art en l'occurrence, tout un tas de réflexions à la Donna Haraway, le cyborg en tant que corps reparé, mais en même temps de corps mis en puissance, qui devient surpuissant, et en plus corps féminin, parce que la femme est donc quelque chose d'associé à ce type de d'artificialité. Oui, ça c'est quelque chose qu'on voit dans une production plutôt liée à la circulation artistique, je dirais.
Je viens de m'en souvenir d'une, en fait, en situation d'empowerment, où le corps est réparé, c'est dans Altered Carbon. La fliquette perd son bras, il est remplacé, elle est donc handicapée, il n'y a aucun doute, mais elle devient surpuissante à cause de ça. Alors ça peut être problématique, en fait, parce que pour moi, c'est une façon de... Alors, je ne suis pas totalement sûre de ce que je raconte là, mais c'est un peu facile de nous dire « Mais en fait, ton handicap, c'est un super pouvoir. » Parce que du coup, on n'a plus du tout à le gérer. Voilà. Il y a quelque chose là.
Il y a l'autre exemple, par contre, qui est vraiment l'exemple qui est sous les yeux de tout le monde, c'est Ghost in the Shell Donc le pouvoir, ou plutôt le corps remplacé du personnage principal est un corps qui est en plus sursexualisé dans ce contexte-là et qui en même temps exprime un pouvoir très fort qui est très très éloigné de la perte de contrôle. Au contraire, c'est la personne qui a plus de contrôle dans ce contexte-là.
C'est plus une question de surhomme, en fait. Donc, principe même du handicap dans le corps. Et pour Ghost in the Shell, c'est presque le principe de sex dog, puisqu'on a quelque chose de totalement articulé, totalement puissant. Le principe même d'adoration de... Mince, j'ai oublié son prénom. Mais de cette héroïne, c'est d'être surpuissante. C'est d'avoir dépassé son handicap, ce qui est un trope assez présent dans la représentation du handicap.
Mais c'est ce que je dis, c'est le problème, c'est le dépassement.
Mais il y a, je pensais peut-être à une héroïne, mais bon, ça change suivant les histoires, il y a Oracle aussi.
Oui, Barbara Gordon.
Barbara Gordon, c'est peut-être la seule représentation, où elle, mais elle compense de fait de son intellect surdéveloppé, un peu à la Bruce Wayne, donc civil.
Mais ce qui est intéressant, dans le cas de Barbara Gordon, vous savez, c'est la fille du commissaire Gordon qui travaille avec Batman. Et c'est que Barbara Gordon a un personnage qui a toujours servi de faire-valoir. C'est-à-dire qu'à la base, elle a été créée en 61 parce que les parents râlaient en disant « C'est bizarre, Batman et Robin, hein, ils combattent le crime en lycra. Je veux pas que mes enfants lisent ça, tous les deux. À mon avis, c'est, ils font de la promotion, de trucs pas très clairs. » Et donc, les créateurs disent « On va balancer Barbara Gordon, qui déjà n'a pas été créée... pour elle-même, par elle-même. Elle a été créée pour que les parents puissent dire « C'est bon, il y a une nana, c'est plus suspect. » Et puis, pareil, elle sera encore de faire-valoir parce qu'ils se sont dit « Ah tiens, la BD commence à s'essouffler, il faudrait insuffler un nouveau souffle, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Eh bien, on va martyriser Barbara Gordon. Et donc, tu as le Joker qui arrive chez Barbara Gordon, qui lui tire une balle dans le dos et qui, une fois qu'elle est à terre, va la violer. Donc, voilà. Mais du coup, on ne saura jamais, pareil que pour Wonder Woman, qu'est-ce qu'elle aurait été par elle-même en tant que personnage féminin qui ne serve ni de faire valoir pour camoufler la supposée homosexualité de Batman et Robin, ni un moyen de faire remonter un petit peu les ventes en martyrisant un des personnages que les lecteurs et les lectrices aiment bien, quoi.
Et de préférence une femme. Par contre, je me souviens d'un roman policier qui s'appelait La mort des neiges, où une femme handicapée est... en fauteuil roulant, elle est sourde et je crois aveugle aussi. Elle a vraiment, elle arrive à coincer un serial killer. C'est un roman glaçant, c'est une merveille. C'est Brigitte Aubert, La mort des neiges. Et ben, ce qui m'avait entre guillemets séduit dans cette histoire, et j'emploie le mot avec des guillemets parce que c'est une histoire abominable. C'est un peu comme les romans de Jonquet, on n'en sort pas comme ça. C'était que elle était elle-même. C'était que son handicap, les façons qu'elle avait de le compenser, elle ne le transcendait pas, elle ne le surpassait pas, elle ne le dépassait pas, mais c'est son handicap même qui lui permettait de découvrir le coupable. Ça, c'était... Mais bon, c'est une femme, c'est Brigitte Aubert, et je pense que Brigitte Aubert, vu la trajectoire de sa littérature après, parce qu'elle a écrit plein d'autres romans... assez, on va dire, étrange, et de plus en plus étrange, et vraiment de plus en plus en plus étrange, je pense que Brigitte Aubert souffre d'un handicap quelconque dont je vois pas du tout ce que c'est. Mais il y avait vraiment... Cette thématique, elle est au creux et en permanence dans sa littérature, pas seulement dans les autres romans de la mort des neiges, dans les autres romans que la mort des neiges, il n'y a pas ce personnage-là. Hein, il y en a d'autres. Il y a une personne transgenre un peu plus loin dans un roman qui s'appelle Transfiction. Il y a une Marilyn Monroe zombie, je ne sais plus où. Dans, bon, bref, ça devient de plus en plus bizarre. Mais chaque fois, on a affaire à un personnage féminin. Qui est très fort par rapport à ce qu'il est. Et on ne dépasse pas ce qu'il est.
Vu qu'il reste à peu près une dizaine de minutes, on va vous passer la parole. Je pense qu'il y aura de nombreuses questions. Un micro va circuler dans les allées.
Bonjour. J'ai deux remarques, une SF et une pas SF. En SF, je pensais aussi à l'œuvre de Louis V. Master Bujold, La Sac à Vorkosigan, où certes le personnage principal qui est un homme est handicapé, Miles Vorkosigan, mais il y a aussi plusieurs personnages féminins récurrents. Je pense à Thora, qui a combiné à la fois un handicap social du fait de son apparence monstrueuse et un handicap physique du fait de son vieillissement accéléré qu'ils essayent de contrer, qui est un personnage. Enfin, Thora a été créée par des scientifiques. Il y a aussi le personnage d'Eli Quinn qui s'est fait brûler le visage et qui, même si elle a été reconstruite derrière, garde un traumatisme là-dessus. Et les Quaddy.
Les Quaddy ne sont pas handicapés.
Ils sont en situation de handicap quand ils ne sont pas dans la société Quaddy.
Alors attention, autant je vous suis à fond sur Quinn et sur le sergent Thora, ça c'est vrai. Quinn en particulier, c'est une vraie tragédie, tandis que Thora, elle est à l'aise dans ce qu'elle est. Elle a été créée ainsi et elle prend sa vie totalement. Mais les Quaddy, ils sont parfaitement adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent et ils considèrent les êtres humains bipèdes, parce que ce sont en fait des quadrumanes, les Quaddy. Hein, et donc ils sont parfaitement adaptés à un monde sans gravité ou avec une gravité différente. Ils sont parfaitement adaptés à une station spatiale, alors qu'un bipède, il est plutôt emmerdé. C'est moins pratique. Ils ne se vivent à aucun moment comme des handicapés.
En revanche, je t'accorde
volontiers que le regard des bipèdes est abominable.
Oui, oui, et ce que je trouve intéressant, c'est une manière d'aborder le handicap comme quelque chose de contextuel, parce que j'ai le souvenir d'une scène où une Quaddy se retrouve en situation de handicap du fait qu'elle n'a pas son module et qu'elle est en gravité. Et je trouve ça intéressant d'avoir cet angle-là, justement, de venir sur le handicap, c'est une question de société et de contexte.
Un mec sans scaphandre dehors dans l'espace, il est aussi un peu en situation de handicap.
D'où la richesse du discours là-dessus dans ce livre. Je pensais aussi à vos livres, la série de Le Cycle de Navarre notamment, où pour moi le personnage principal de La Sorcière, dont je veux le prénom là parce que je suis fatiguée, pour moi porte un handicap aussi du fait.
Ah bon ?
Mais oui, pour moi ça porte un handicap au livre de manière très claire. Ça n'a pas été cité, il le fallait. Et ma deuxième remarque en dehors de la SF, on parlait des questions d'handicap invisible chez les femmes. Une de mes meilleures amies combine un handicap physique invisible, une maladie psy invisible aussi. Et en termes de violence médicale, comme bipolaire, maladie inflammatoire et en plus toxicomane sobre, alors quand elle a besoin de soins qui n'ont rien à voir avec ça, je vous laisse imaginer la difficulté à avoir un soin adapté à sa situation, qu'elle soit prise au sérieux premièrement, parce que du fait qu'elle soit bipolaire, elle n'est jamais prise au sérieux, et qu'ensuite elle ait droit à des médicaments qui soient adaptés à sa situation, c'est-à-dire par exemple pas d'opiacés, mais quand même elle a la malle. Alors déjà qu'on la croit quand elle a mal, et qu'ensuite elle ait un traitement qui soit adapté. Voilà, c'était tout.
Merci. Quelqu'un d'autre ?
Après, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est aussi la question de la représentativité des personnes, des femmes en situation de handicap. Mais le problème, ce n'est pas le problème de la représentativité des femmes en situation de handicap. Le problème, c'est la représentation des femmes. Quand Doctor Who, la nouvelle saison, ils ont dit, bon, on va prendre une actrice pour jouer Doctor Who, et que t'as tous les puceaux qui se sont excités sur Twitter en hurlant, c'est pas possible, Doctor Who, c'est un homme. C'est un extraterrestre immortel qui est capable de se régénérer dans des corps différents quand il le souhaite. Et vous, d'un seul coup...
Il a deux cœurs.
Et il a deux cœurs, il est pansexuel. Mais le problème, c'est que d'un seul coup, ça va être une femme. Il voyage dans le temps. Mais le problème, c'est que ça va être une femme. Donc le problème, c'est vraiment la représentativité. Comment est-ce qu'on accepte que des personnages soient féminisés? Quand Thor est devenu, dans les dernières BD, c'est devenu une femme, c'est pareil. Aux États-Unis, ça a été l'horreur. Quand Spider-Man est devenu Milo Morales, c'est-à-dire un noir, ça a été l'horreur. Spider-Man aux États-Unis, ça a été l'horreur. C'est qu'on accepte que des minorités soient représentées aussi.
Pour Doctor Who, c'est encore plus inacceptable dans le sens où dans tous les épisodes, on a la Lord Lady of Time Missy, le maître. On sait qu'il va se réincarner dans un corps de femme. De même, il y a un général qui devient une générale à un moment où il meurt, un autre Lord Lady of Time. Donc, il n'y avait aucune raison que le docteur particulièrement ne se réincarne pas en femme à un moment donné. Aucune. C'était parfaitement justifié dans la série. Il n'était pas question d'agenda LGBT, là.
On est partout.
Et on vaincra.
Une autre question ?
Alors moi, Il y a deux histoires qui m'ont fait penser à autre chose. À la fois, la personne trisomique qui a été Lugano.
Attendez, parlez un tout petit peu plus fort. Je ne suis pas sûr qu'on vous entende très bien.
Et puis dans le micro.
Alors, je disais à la fois l'histoire de la personne qui était trisomique, qu'on avait ligaturée sans lui demander son avis, ou vous, votre ami qui est en fauteuil, qui malgré tout, incroyablement, est marié. Ça m'a fait penser où j'ai fait des ateliers sur la vie affective dans des instituts pour personnes handicapées mentales plutôt lourdes, on va dire. Et on s'est aperçu que c'était vraiment quelque chose de très tabou, aussi bien dans la population qu'auprès du personnel médical, que les personnes handicapées peuvent avoir des désirs, peuvent avoir des sensations, même chez des personnes qui ont un mental qui est très limité, qu'on va arrêter au niveau d'un enfant, sauf qu'ils ne sont pas dans le corps d'un enfant. Et je trouve que pour les femmes, encore plus, parce que de base, les femmes n'ont pas forcément le droit d'avoir beaucoup de désirs, et une femme handicapée, on est en dessous du zéro, quoi.
Et pourtant, là, c'est une question pour vous. La question est-elle liée à la fertilité ou au désir sexuel?
Non, moi, c'était vraiment pour aller plus loin, parce que non seulement il y a la question de pouvoir assumer des enfants en étant handicapé ou pas, mais il y a juste de vouloir avoir une vie normale, quoi, et que le désir en fait partie.
Ça me rappelle un truc, c'est un petit incident qui est arrivé quand mon fils avait 11 ans. Avec un de ses camarades, ils ont fait ce que font les garçons assez fréquemment, tous les garçons du monde, ils se sont montrés leur bistouquette. Bon. En rentrant, Kayan vient me voir et il me dit, tout content qu'il a vu la bistouquette de machin, je ne vous dirai pas son nom, on va pas. Ah. Ah, il y a prescription, c'était RA. Bon. Et il me décrit le truc, je dis, oh, j'imagine assez bien. Et il s'ensuit que Kayan conclut que tous les garçons sont faits à peu près comme lui, et donc il est content. Et la fin, ça pour lui, ça clôt le débat. Mais le lendemain, il revient et le problème, c'est que il avait envie qu'on se remontre la bistouquette, et lui, Kayan, il n'avait pas du tout envie. Alors je lui dis, écoute, tu dis à machin que tu es content que vous la soyez montrée une fois, que maintenant tu veux plus. Voilà. Et si ça s'il insiste, tu te défends, tu vas voir un adulte, tu lui dis que pour moi ça réglait le truc. Je me suis pris un coup de fil affolé de l'école spéciale où était gardé mon fils parce que effectivement machin avait insisté. Et Kayan, un brave petit garçon bien sage qui écoute sa maman, il était allé voir un adulte et pour dire « je ne veux pas ». Et là, le truc, c'était « est-ce que vous voulez porter plainte contre machin ?» Non mais ça va bien, oui. On est où là? C'est des gosses de 11 ans. Il n'y a pas eu d'agression, personne n'a frappé personne, personne n'a violé personne. Il y a eu le bon réflexe qui a été d'appeler l'adulte pour régler le conflit. Il a 11 ans. Il fait juste un truc que tous les gamins du monde, mâles comme femelles, font à un moment donné. Regardez comment est l'autre. Mais parce qu'ils étaient handicapés, la mousse est montée comme une mayonnaise ultime. Et il aurait fallu que j'envoie ce gamin, je ne sais pas où d'ailleurs, comment ça se serait fini, parce que c'est quand même un mineur. Mais il a fallu que je tranquillise les parents de l'autre môme. C'est fou ça quand même.
On aurait bien pris d'autres questions, mais il est déjà 17h30. Il reste une dernière conférence. On vous remercie tous d'être venus aussi nombreux.
Merci beaucoup.
On peut poursuivre un échange un peu plus loin si vous voulez, il n'y a pas de souci. On vous souhaite une bonne fin de festival.